Bonsoir à toutes et à tous. Alors on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Rendez-vous Agri, le numéro 58 déjà. Voilà, et j'ai le plaisir de recevoir quatre invités, j'allais dire de marque, qui sont présents donc sur le plateau pour parler d'un sujet voilà que je voulais évoquer depuis quelques temps. Et ce sujet, c'est tout simplement: est-ce qu'on peut être fier de son métier? Est-ce qu'on peut tout au moins ne pas avoir peur d'en parler dans certaines conditions? Et ça s'adresse à la fois aux agriculteurs, mais aussi aux gens du para-agricole. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude forcément d'avoir une émission qui s'adresse aussi aux salariés du monde agricole, hein, que ce soit dans les exploitations agricoles, mais aussi dans des entreprises. Et là, on va voir qu'il y en a quelques-uns qui sont présents, d'ailleurs plus que d'agriculteurs. Mais tout simplement pour évoquer ce sujet, voilà, lorsqu'on travaille pour une maison de phyto, pour des pulvées, de la construction de machines, dans un élevage, sur des productions, voilà, comment on peut arriver à être un peu plus, peut-être un peu plus fier, arriver à un peu mieux discuter avec les gens. On va essayer de voir des solutions pour arriver à discuter de façon peut-être un peu plus sereinement que de s'énerver tout de suite. Il y a un petit exemple de vidéo qui sera passé, qui va être intéressant, je pense, à montrer. Et en attendant, je vais déjà commencer par présenter mes invités. Alors voilà. Alors j'ai Virginie Louis. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Je laisserai à chacun le temps de se présenter un petit peu plus tard. Voilà, toi tu travailles chez Technoma, voilà, dans la pulvée. Maïlis de Mareuil. Oh là là, je vais. Alors j'ai la voix un petit peu cassée, mais Maïlis aussi. Donc
moi aussi.
Voilà, on va essayer de pas éternuer trop pendant la soirée. Voilà, et si jamais je meurs en route, ils m'ont promis d'intervenir et puis de me remplacer si jamais j'arrive pas à finir la conversation. Voilà, donc Maëlys qui travaille à l'APCA, donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, c'est ça, je me trompe pas,
hein? Oui, tout à fait.
Voilà.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Maïs. Ensuite, on a Luc Servant qui, lui, est responsable. Alors, c'est quoi? C'est président de... Je sais plus exactement.
Vice-président de la PCA, et sinon, président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, donc Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a Sébastien Évin qui, lui, travaille pour une méchante maison de produits phytosanitaires. Non, peut-être gentil, je sais pas. qui est tout simplement Syngenta. Sébastien, toi, tu es responsable communication, c'est ça?
De la communication. Et on fait effectivement des produits phytosanitaires, mais on est aussi semencier.
Aussi semencier. Donc voilà, plusieurs casquettes.
Bonsoir à tous.
Et vous produisez aussi certainement des produits de biocontrôle, je suppose. Entre autres, ça fait partie des étiquettes. Voilà. Donc avec tout simplement nos invités, on va essayer justement d'expliquer pendant cet épisode comment vous donner des solutions. Alors il y a déjà du monde qui est présent aussi dans le chat. Alors j'ai vu Kélian qui était présent. Merci à Kélian. Alors je sais pas si Emilien nous dit bonjour, mais en tout cas voilà, on a Jean-Robert qui dit qu'il vient de s'installer en tant que maraîcher. Ben, bonsoir à tout le monde. Voilà, vous pouvez nous suivre, hein, donc sur YouTube et sur Facebook. C'est la particularité de ce podcast, c'est qu'il est enregistré en direct, donc c'est un peu un mixte. On enregistre en direct, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez participer, voilà, et être présent. Et donc, tout simplement, agir avec nous, interagir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits messages. Du moment que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci, on est prêt à les prendre. Voilà, alors pour rappel, ce podcast est édité, donc vous pouvez le retrouver aussi en différé, donc sur iTunes et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez l'écouter dans votre tracteur, dans votre voiture, quand vous avez une heure à perdre, parce que c'est environ la durée que vous avez sur cet appareil. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur une des applications, de mettre une petite note et de tout simplement mettre un petit commentaire, ça fera connaître à d'autres personnes. N'hésitez pas à en parler aussi si vous appréciez. Voilà, c'est le meilleur moyen de diffuser ce podcast et puis de pouvoir le faire connaître à d'autres personnes. Allez, on va rentrer dans notre petit sujet, juste après avoir dit qu'on a deux partenaires, voilà, j'allais les oublier. On a Ternet, dont on verra l'article qui a été présenté pour la soirée, et puis aussi, tout simplement, Syngenta avec Visée Zéro Impact, qui est présent avec nous aussi sur ce podcast pour m'accompagner et à m'aider à le réaliser. Voilà, alors on rentre dans le sujet. On a déjà un petit peu de monde sur le chat. Voilà, il y a quelques bonsoirs. Donc bonsoir à tout le monde. Alors Virginie, tu es un peu l'instigatrice de cette idée-là, parce qu'on a eu l'occasion de discuter. Alors j'étais venu à Épernay, donc dans votre centre de fabrication, j'allais dire, de pulvée, et j'avais eu l'occasion de discuter avec un groupe de commerciaux, de personnes qui travaillent aussi au niveau de la enfin du machinisme donc, et on avait pu comprendre que dans la discussion, bah parfois c'était pas évident pour certains de dire ce qu'ils faisaient, que ce soit un repas de mariage par exemple, que ce soit à des voisins ou à d'autres personnes. Dans la discussion, c'est parfois compliqué d'arriver à expliquer ça. Et toi, tu nous as avoué, Virginie, tout à l'heure, que a priori, tu disais pas pour qui tu travaillais ou dans quoi tu travaillais, c'est ça ?
Non, je le dis pas.
Alors, tu dis que tu es responsable com dans la machinisme agricole, alors non ?
Ouais, c'est ça, dans le milieu agricole, je dis.
D'accord.
Donc, après, c'est quand on me demande un peu d'approfondir, je dis bah je travaille pour un gros groupe, enfin une grosse entreprise de pulvérisateurs. Et là, les petits trucs à dos et tout, tu dis oui aussi. Et voilà. Mais bon, le groupe Excel, les personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole ne connaissent pas. Donc après, c'est vrai que moi, avant de rentrer chez Technoma il y a 5 ans, j'étais plus dans la publicité ou même dans l'agroalimentaire, et j'avais pas forcément d'a priori, parce que la publicité ça se fait dans tous les milieux si on veut. Mais c'est vrai que j'étais assez surprise de la façon dont les gens, dès qu'on on dit le mot pulvérisateur, soit en fait il y a vraiment deux niveaux. C'est alors surtout pour l'agricole, hein, je parle pas de la vigne. Pour l'agricole, c'est soit en fait les gens ils disent ah ben tiens, tu pourrais pas m'avoir des prix sur des pièces. Alors ça, mais clairement, ça c'est une possibilité. Et la deuxième, c'est ouais mais attends, t'as vu les produits phyto et puis la pollution et puis machin. Donc c'est vraiment deux sujets. Enfin.
On a deux façons de t'aborder différemment. C'est soit, c'est si c'est des personnes du milieu agricole, ils vont chercher à avoir un petit avantage.
Exactement.
Peut-être. Ou alors peut-être des renseignements techniques, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en plus, France Pulvé a quand même une gamme hyper large maintenant au niveau pulvérisation.
C'est ça.
Ou soit ce côté négatif où, oui, voilà, ben, on sait que des produits sont pulvérisés. Donc, ah ouais, c'est les grosses machines qui en mettent partout, qui polluent. Voilà. Donc, c'est là où c'est un petit peu délicat. Alors j'avais prévu de faire parler Maïs, mais non, je vais intervenir tout simplement et faire intervenir Sébastien avant, désolé. Mais je pense que c'est aussi intéressant de compléter, parce que Sébastien, voilà, vous produisez des produits qui sont pas les machines qui diffusent, mais tout simplement les produits qui sont à l'intérieur. Et là, c'est pareil, on a eu l'occasion d'en discuter. Il y a aussi une problématique au niveau des collaborateurs. Vous avez d'ailleurs un programme dont on va parler un petit peu après, qui permet justement d'en discuter, peut-être de désacraliser un peu ça. Mais toi aussi, tu sens qu'il y a une difficulté. Et est-ce que toi, tu oses parler de ton métier et dire ce que tu fais à tout le monde ?
Alors moi, je vais commencer par dire que j'ose tout, et que c'est d'ailleurs à ça qu'on me reconnaît, pour plagier une citation. Donc oui, j'ai toujours... effectivement, dit ce que je faisais, et avec une, du coup, la deuxième approche, c'est d'essayer d'expliquer le pourquoi et quelle était l'utilité des produits. Alors, d'un côté, je suis issu du monde agricole, donc j'ai quelques petits réflexes, et j'ai en fait jamais travaillé, quand on travaille à la communication, Virginie ou Maëlys pourront en témoigner, on suscite toujours l'interrogation. Donc oui, toujours assumer chez qui on est, et surtout donner du sens, donner de la perspective à ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que c'est plus facile de dire qu'on est comptable dans une SS2I plutôt qu'on est lobbyiste ou communicant dans une entreprise de produits phytosanitaires.
J'aime bien, tu as dit le terme lobbyiste aussi, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, quand on s'adresse à certains types ou une certaine catégorie de société, ça devient du lobbying, quoi. C'est plus de la communication, ça devient du lobbying carrément, quoi.
Alors en fait, c'est deux choses différentes, mais ce qu'on appelle d'ailleurs, j'allais dire, les grandes entreprises l'assument pleinement, c'est de la communication d'influence. On communique sur l'image de marque d'une entreprise ou d'une organisation. L'idée n'est pas de rentrer par le produit, mais de rentrer par l'utilité. On parle beaucoup d'entreprises à mission, alors c'est pas notre cas. Néanmoins, on a une vocation, et la vocation n'est pas de vendre des produits phytosanitaires. La vocation est de défendre les cultures, de protéger les cultures pour justement permettre une alimentation qui soit sécurisée. Et cette communication corporate, alors tu parlais de, enfin je parlais de lobbying et tu rebondissais là-dessus, mais expliquer ce qu'on fait, finalement, ça va s'adresser à l'ensemble de, des catégories de la population.
Ok, alors justement j'ai Philippe Mérès, alors qui travaille je pense pour une autre boutique de phyto qui est présent derrière sur le chat et qui met « c'est parce que ces sujets sont compliqués qu'il faut dialoguer pour expliquer ». Et c'est vrai que je pense que on est tous dans le, un petit peu dans le même bateau. Allez, je continue avec avec le sujet. Je vais tout simplement demander à Luc, voilà, qui lui aussi, bah, de te représenter un petit peu, parce que tu n'es pas que vice-président, tu es aussi agriculteur, hein, c'est ça ?
Oui, effectivement. Mon métier d'aujourd'hui, c'est agriculteur, et donc je suis à la fois sur le terrain et je gravite dans les organisations agricoles.
Alors toi justement au niveau des organisations agricoles, je suppose que tu as des échos. Alors toi en tant qu'agriculteur, est-ce que tu oses déjà dire ce que tu fais sans souci et sans difficulté ?
Alors moi je le dis, il n'y a aucune difficulté là-dessus, mais c'est vrai que dans le milieu agricole, je joue avec les collègues, c'est le monde agricole, les agriculteurs qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ou nous on a une mauvaise image de nous-mêmes, et très souvent on n'ose pas dire, ou je vois des collègues qui n'osent pas dire qu'ils sont agriculteurs, alors qu'une fois que c'est dit, il y a plutôt généralement un regard bienveillant de la part de celui avec qui on discute. Plutôt, on nous dit « Ah bon, vous êtes agriculteur, c'est bien, tout, qu'est-ce que vous faites ?» Et après, on rentre un peu dans le sujet. Et donc là, je crois qu'il n'y a aucune difficulté à dire qu'on est agriculteur. Et je dirais même que depuis un an ou deux ans, avec la crise sanitaire, on est une profession qui était bien vue, mais qui l'est peut-être encore mieux. Et quand on voit les sondages, les agriculteurs sont quand même une bonne image à 70, 75, 80%. Après, c'est quand on commence à rentrer dans le détail et quand on commence à discuter des productions, des modes de production, c'est là où ça se complique un peu plus, quoi, en fait.
Ouais, alors souvent, ce qu'on dit, c'est le côté agriculteur, il est plutôt bien vu, hein. Je pense que des dernières statistiques, c'est vrai que sont plutôt très bonnes et le retour est souvent très positif. Par contre, c'est sur les pratiques où on a les problèmes. Alors, je vois Jean-Robert qui nous met un petit commentaire. Trois sujets, agriculteur pollueur, agriculteur bio, avec pulvérisateur ou agriculture raisonnée. On oppose souvent aussi les différentes agricultures. Alors moi, pour être en conventionnel et en bio, je le sais très bien. Voilà, à chaque fois, t'es au milieu et tu sais pas, parce que bah t'es en bio, tu utilises du cuivre et parfois un peu trop, et donc c'est peut-être pire. Ça, c'est le côté conventionnel. On est parfois aussi à s'auto-critiquer. Ça, c'est toujours une difficulté que j'apprécie pas. Mais voilà, on peut être aussi entre guillemets conventionnel. Maintenant, je sais pas si on peut dire conventionnel, pas raisonné, parce que certes, il y a des raisonnements qui sont plus ou moins poussés chez les agriculteurs, hein, on n'est pas au même niveau d'avancer dans les pratiques, voilà, et certains sont certainement beaucoup plus pointilleux que d'autres. D'autres appliquent peut-être pas des solutions, mais de façon un peu plus systématique, ou tout au moins pour sécuriser, parce que chacun n'a pas la même appréciation de la sécurité. Certains oseront tout, dans leurs essais, que d'autres oseront pas diminuer forcément les oses. Mais c'est vrai qu'on est souvent un peu stigmatisé par rapport à nos pratiques. C'est pas l'agriculture en elle-même qui est gênant, c'est la pratique et l'usage aussi. Alors c'est vrai que le produit phyto et le pulvérisateur sont à peu près les deux éléments les plus contestés dans la profession. Alors je vais donner un petit peu la parole à Maïlys. Ça va, la gorge va bien ?
Ça va, on va essayer de faire.
Voilà, alors je te laisse te présenter un petit peu et puis dire justement ce que vous faites, vous, au niveau de la PCA pour accompagner un petit peu des groupes. Et est-ce qu'il y a des groupes d'agriculteurs ou d'autres groupes qui ont besoin de vos services par rapport à ça ?
En fait, les chambres d'agriculture, dans leur projet d'entreprise, ont un domaine d'action qui concerne la communication et qui est très important parce que c'est la mise en place d'actions pour favoriser le dialogue entre l'agriculture et la société. Et ça, c'est assez nouveau, finalement, de pouvoir avoir cette thématique d'ouverture envers la société. Et ça a été mis en place justement parce qu'il y a vraiment une problématique de regard, de déconnexion, en fait, entre les agriculteurs et la société. Et les chambres d'agriculture ont voulu s'en emparer en mettant en place des actions.
J'interromps un petit peu, depuis combien de temps les agriculteurs demandent ça et depuis combien de temps justement donc les chambres d'agriculture essayent de mettre en place ce type d'accompagnement ?
Alors, je vais peut-être laisser Luc Servant répondre sur depuis combien de temps les agriculteurs le demandent, parce que je ne suis pas la mieux placée pour le dire, mais en tout cas, dans leur projet d'entreprise, ça fait 3 ans qu'il y a des actions qui sont mises en place et que c'est mis D'accord. comme une priorité des chambres d'agriculture. Voilà. Et après, il y avait des actions qui étaient faites auparavant, mais ce n'était pas forcément des actions prioritaires. Et là, ça a été mis en avant comme une action prioritaire. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. C'est important, en fait, que les agriculteurs prennent eux-mêmes leur communication en main, que du coup, nous-mêmes également, nous prenions notre communication en main. Et ça a également une répercussion sur, on va dire, la marque employeur, parce qu'en tant que salarié chambre d'agriculture, finalement, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. On se rend compte, parce qu'on travaille cette communication positive, finalement, on met des actions de communication positive, notamment des actions de formation auprès des agriculteurs, mais également auprès des conseillers et des collaborateurs. Et ça a des répercussions aussi, du coup, sur la marque employeur, j'en parlerai peut-être tout à l'heure.
D'accord, on en reparlera, puis on parlera du contenu aussi, j'allais dire, des formations ou des conseils que vous pouvez apporter là-dessus. Alors, je reviens justement sur Luc. Toi, tu ressens depuis combien de temps auprès des agriculteurs une réelle évolution? Alors, je donnerai mon avis après sur le sujet, hein, mais justement, de cette problématique de dire... On est obligé maintenant d'y aller, c'est à nous à communiquer. Alors qu'avant, on disait justement, on laisse ça aux coopératives peut-être, aux entreprises, et c'était pas vraiment notre souci. Voilà, depuis quand, toi, tu ressens ça au niveau des agriculteurs?
Moi, je crois qu'il y a, alors, il y a eu un grand tournant, hein, quand même. C'est vrai qu'on revient toujours sur la crise de la vache folle, mais je crois que ça a quand même été un grand tournant. Parce que jusqu'à ce moment, il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, pour les agriculteurs, ce n'était pas du tout considéré comme une nécessité de communiquer, parce que la génération encore avant avait à peu près tout le monde une connaissance dans l'agriculture. Alors les grands-parents, il y avait toujours un oncle, un grand-oncle, enfin bon, tout le monde avait plus ou moins un lien avec l'agriculture. Et c'est vrai que depuis 20 ans, il y a une génération qui est arrivée, et il y a des différents événements qui sont arrivés, donc la crise de la vache folle, les OGM, et c'est là, je crois, où le citoyen, le consommateur, s'est aperçu que finalement, il n'avait pas la connaissance de l'agriculture alors qu'il pensait de l'avoir. Et donc, les agriculteurs, dans un premier temps, je crois, sont restés un peu sur la défensive, n'ont pas jugé nécessaire d'aller communiquer en se disant, bon, de toute façon, c'est un phénomène qui va passer, on va être aidé ou la télé va parler de nous. Et en fait, non, les choses se sont plutôt amplifiées dans le sens. Et le monde agricole a mis du temps à réagir, je crois. Alors, il y en avait quelques-uns, je vois les jeunes agriculteurs. Moi, j'étais chez les jeunes agriculteurs à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on voulait faire des opérations de communication parce que c'était un peu dans la peau des jeunes agriculteurs. Il y avait les réseaux qui apparaissaient, beaucoup de nouveaux outils de communication et on voulait y aller. Mais la profession agricole, je crois, c'est pas complètement, a pas pris ça complètement en main. Et on voit que depuis 10 ou 15 ans, c'est en train de revenir quand même en boomerang vers l'agriculture. Et là, on s'aperçoit, comme le disait Maïlys, qu'il y a vraiment un décrochage entre la vision qu'ont les citoyens de l'agriculture et ce qu'est aujourd'hui l'agriculture. Et c'est pas spécialement que leur vision n'est pas juste, justement, elle est fausse. Alors qu'on a beaucoup d'arguments, et c'est ce que disaient les uns et les autres tout à l'heure, on a beaucoup d'arguments pour expliquer que ce qu'on fait, c'est quand même dans l'intérêt de l'agriculteur, du citoyen, même de l'environnement, du milieu. Mais c'est vrai qu'on a réagi tard. Les médias, je crois que je le dis aussi, ne nous ont pas trop aidés pendant un temps, alors qu'on a tout en main aujourd'hui, peut-être justement pour faire de la bonne communication.
Je suis d'accord. Moi, si je peux ajouter un peu, je sais que nous, le groupe Excel, parce que bon, aujourd'hui, je m'occupe de Technoma, mais aussi des marques comme Berthoud et Hardy Evrard. Je sais que le mot d'ordre du groupe Excel depuis quelques années maintenant, c'est vraiment arrêter de mettre dans nos publicités la machine, enfin comme nous, on parle beaucoup de ferraille plastique, si on peut dire. Et justement, le mot d'ordre du groupe Excel a été on remet l'agriculteur et l'homme au centre. Et en fait, c'est pour ça que chaque marque, on a mis en place des campagnes de publicité assez spécifiques, plus la dernière qu'on a faite, qui a super bien marché, qui est toujours en cours. Le slogan, pour tout dire, c'était « Vive l'agriculture qui nous nourrit ». Quoi. Donc, on essaye, en termes de communication aussi, de s'adapter au monde actuel, parce qu'effectivement, on voit bien les actualités, les émissions et les produits phyto, les pulvées, on se fait tous un peu taper dessus. Donc, on essaye aussi de changer nos modes et nos canaux de communication. Donc, un peu comme Thierry, nous, on est beaucoup sur Facebook, ça a un peu changé chez nous parce que avant, en fait, Nous, on ne vend pas directement aux clients, on passe par un réseau de concessionnaires, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux et les autres canaux de diffusion ont fait changer la donne. Aujourd'hui, on répond en direct aux clients et des fois, faut pas trop le dire, mais des fois, c'est un peu plus rapide que passer par un concessionnaire.
Donc... forcément, oui, bah ça, je pense que toutes les structures agricoles, enfin toutes les sociétés qui travaillent pour l'agriculture ont essayé d'avoir un rapport direct et pas intermédié par un autre, parce que c'est toujours compliqué, on n'a pas le retour direct. Alors Virginie, pendant que tu nous expliques justement ça, c'est intéressant de nous dire un petit peu ce que vous avez fait là dernièrement. On a parlé d'une des communications que vous aviez fait. Alors moi, ce qui m'a étonné dans ce sujet-là, c'est que vous avez tout simplement pris une ville qui est la ville dans laquelle vous êtes situé pour faire un essai, un test. Alors je suppose que ça sera pas remis en grandeur nature dans toute la France parce que sinon au niveau coût, à mon avis, ça va vous coûter bonbon. Mais voilà, explique exactement ce que vous avez fait et quelles répercussions ça a eu auprès des collaborateurs de la société.
En interne et en externe. Donc, oui. Comme j'expliquais, en fait, nous, on a mis en place une campagne qui s'appelle Vive l'agriculture qui nous nourrit. Donc, je sais pas si Thierry, tu veux montrer un ou deux visuels.
Je sais pas si Guillaume a les visuels pour pouvoir nous les présenter, mais sinon, vas-y, continue. Oui.
Et en fait, donc, cette campagne-là, on a mis plus l'homme et la femme en avant, puisque nous, on fait pas de différence pourquoi plus l'agriculteur que l'agricultrice. Et puis, en fait, on a vraiment mis la machine en arrière-plan, mais à peine visible. Et en fait, on a fait une grosse diffusion dans la ville d'Épernay, en local. Excusez pour mon chat.
C'est pas grave, il participe, il a le droit. Du moment qu'il te casse pas des plantes, ça ira pour toi.
C'est ça. Et en fait, ça a eu un impact que je m'attendais pas, surtout en interne, au niveau de nos salariés, les salariés de l'usine. D'habitude, je vous avoue, quand on fait de la communication, j'ai pas de retour, ou alors des critiques, ce qui va pas. Et là, en fait, il y a plusieurs personnes, quand je me suis promenée dans l'usine, qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Oh Virginie, c'est toi qui as fait la publicité sur les abribus, c'est super et tout, Technomore, je l'ai montré à mon père et tout. » Et tu te dis, en fait, on les a sentis fiers. Au début, je vous avoue qu'en interne, surtout au niveau des responsables de service, j'ai eu des échos. Bon, si vous m'entendez, vous l'avez dit. ils m'ont beaucoup dit « Oui, mais ça sert à rien, pourquoi faire ?» Et je leur ai dit, mais attendez, parce qu'on a des a priori aussi sur certains coûts, notamment là, c'est JC Déco. Et en fait, détrompez-vous. C'est moins cher qu'une pub d'un matériel agricole. Hein. Et il y avait 50 affiches placardées dans toute la ville. Hein. Donc, c'est tout. On a fait un test. Et même le réseau de concessionnaires a beaucoup suivi. J'ai eu pas mal de retours. Si on fait des portes ouvertes, est-ce que vous feriez ça dans notre ville? Des choses comme ça. Donc, très bel impact. Et puis, en interne, du coup, on a dit, Technoma, ça a marché. Donc, pourquoi pas après décliner avec les autres marques. Après, si j'ai un conseil à vous donner, moi, quand je suis arrivée à Technoma, chez Technoma, il y a 5 ans, je voulais faire un peu des pubs, on va dire, originales ou modernes. Et on m'a tout de suite dit, oula, attends, nous, on fait du pulvé. On n'est pas de l'automobile. Donc, ça sert à rien de faire des pubs. Moi, tout de suite, je leur ai dit, mais on est trop modeste, en fait. C'est pas parce qu'on est du pulvé ou des produits phyto. Pourquoi on n'a pas le droit de se permettre de faire des belles campagnes, quoi. Et surtout, autour de l'agriculture, il y a énormément de choses à dire, quoi.
Ok. Donc, un bel exemple de quelque part de prise en compte et puis un retour positif de la part des collaborateurs qui ont bien vécu ça. Et au niveau agricole, tu as eu un écho du milieu agricole aussi, je sais pas.
Oui. En fait, on a décliné les affiches sur des bâches de 5 mètres par 1. Et j'avais fait un jeu concours en disant, il y en a deux, trois bâches à gagner, celui qui trouve, c'était un jeu de 17 différences. Et en fait, il y a eu tellement de gens qui m'ont écrit en privé, j'aurais bien aimé la gagner, je travaille dans une coopérative et tout. Et du coup, j'ai ouvert le truc en disant, si vous souhaitez une bâche, c'est gratuit, contactez-moi en privé. Et à ce jour, j'ai déjà envoyé plus de 67 ou 68 bâches. C'est que des agriculteurs, mais aussi, je vous dis, des gens qui travaillent dans des coopératives. Même notre réseau de concessionnaires nous en a demandé pour leur base. Et à chaque fois, ce que je demande, c'est juste une petite photo. Donc, j'en ai pas mal et puis je saupoudre dans l'année sur mes réseaux. Mais en tout cas, non, très bonne. Et j'ai eu beaucoup de félicitations et de remerciements sur la démarche. comme quoi que c'était la première fois qu'une entreprise de pulvée mettait en avant l'agriculture, ce que je trouve dommage.
ça peut être utile lorsqu'on vit grâce aux agriculteurs aussi, un petit peu, hein, quelque ça. Part. Bon, allez, je rebondis avec Sébastien, parce que justement, c'est pareil, vous avez mis en application, et c'est comme ça que j'ai eu les coordonnées de Maïlis, entre autres, qui pourra nous expliquer un petit peu le contenu. Mais vous êtes rapproché aussi donc des chambres d'agriculture, de la PCA, pour vous accompagner sur une démarche. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais réexplique-la exactement, et comment ça se passe, vous, et pourquoi vous avez décidé de partir là-dedans aussi, sur ce type de démarche?
Alors, juste, les démarches étaient complètement indépendantes entre la PCA et Syngenta, mais en discutant de façon informelle, on s'est aperçu qu'on travaillait sur le même sujet et qui nous réunit ce soir. Il y a plusieurs choses qui ont été dites jusqu'à présent, et notamment par Virginie, autour de la modestie de notre propre perception. Et de la fierté d'appartenance. On a lancé une campagne à l'UIPP, qui est l'Union de l'industrie de la protection des plantes, justement pour expliquer nos métiers et à quoi on servait, avec une signature qui était assez simple, qui était « La santé des plantes, c'est notre santé ». Et on avait la volonté de faire intervenir des collaborateurs de différentes entreprises du secteur, avec une grande question: lesquels les collaborateurs accepteraient-ils de témoigner de leur métier pour une campagne télé? Et on s'est dit, on va poser la question à nos collègues. Alors, on avait dit, voilà les différents métiers, il faut différents tranches d'âge, différents genres, enfin, tout ce qu'il faut. Et en fait, on a eu un accueil très positif. C'est-à-dire qu'on a eu toutes les personnes à qui on a proposé de participer à cette campagne ont accepté. Donc ça, c'était un indicateur qui était extrêmement intéressant, avec des jeunes, des plus seniors, des biologistes, de l'agriculture digitale, enfin toute la transformation qu'on peut avoir. Donc ça, c'était déjà un premier point. Le deuxième point, c'était pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place chez Syngenta, et il y a une démarche similaire à l'UIPP, autour de la création de dialogue, et le mot dialogue est revenu plusieurs fois depuis le début de ce live. C'est que à force de pas bien comprendre qui on est et de prendre toute la moindre question comme une agression, on réagit de façon un peu violente. Alors qu'en fait, la question « pourquoi vous sortez un pulvée » ou « pourquoi vous protégez les plantes », c'est peut-être juste de l'inculture ou une incompréhension. C'est pas forcément une agression. Et donc, il a fallu expliquer que au lieu de tout de suite monter dans les tours et se braquer, il fallait ouvrir le dialogue, et que le dialogue n'était pas un combat. Ça, c'est vraiment un point qui est important, et il faut qu'on sorte de ce biais-là. Le deuxième point aussi, c'est que on a parlé des réseaux sociaux, et on est bien content que les réseaux nous réunissent ce soir, mais ils ont un petit défaut, c'est qu'ils nous enferment dans nos propres sphères. Et ils ont
on fait beaucoup d'entre-soi sur les réseaux. On finit par se retrouver dans des groupes de discussion, dans des milieux où on est exactement tous peut-être dans les mêmes idées. Quelque part, on se conforte dans le fait qu'on soit soit très bon, soit très mauvais, ou soit qu'on ait tous raison, alors que le monde est plus vaste que ce que l'algorithme en général des réseaux sociaux veut bien nous présenter, même si on est relativement ouvert d'esprit, quoi.
Exactement. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est vraiment sortir de cette vision grossissante des réseaux sociaux et ouvrir le dialogue de façon, et notamment dans sa vie perso, avec ses amis, sa famille. Pas forcément rentrer dans un combat, sinon on va se fâcher avec tout le monde, en fait.
Surtout. Et alors, comment Sébastien, vous avez mis en place est-ce que vous avez mis en place un programme, une discussion, une demi-journée, comment ça se passe?
On a mis en place un programme qui s'appelle Reconnexion, qui a pour objectif de faire réfléchir les collaborateurs sur leurs moyens de communication. Et un des petits outils assez faciles qu'on a mis en place, c'est un petit film dans lequel il y a un salarié Syngenta qui intervient et qui, en fait, singe un repas de famille. Donc il y a les parents, les frères et sœurs, et en face de chaque question, on dit: comment est-ce que vous voulez réagir? Et là, ça, c'est comme le livre dont vous êtes le héros, et si vous choisissez la solution A ou la solution B, ça va pas donner la même suite au film.
Et donc tu fais choisir la solution qui est prise, et tu mets le résultat et la réponse qui va aller en face, quoi. Voilà. C'est ça, la réaction.
Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a un manque d'écoute. C'est-à-dire que quand on quand on reçoit une question sur à quoi ça sert de protéger les plantes, ou une assertion du style, ah ben non, moi, ma plante, elle est, ou mon plat, il est comme ci ou comme ça, et donc il est bon pour la santé. On le prend pour une agression, alors qu'en fait, c'est juste une inquiétude de mère de famille, c'est juste une incompréhension d'un sujet, et donc on peut créer le dialogue, et c'est vraiment comment créer les bases d'un dialogue constructif, sans forcément prendre l'autre pour un idiot ou un incompétent.
Alors, en parlant de dialogue constructif et puis en parlant de vidéo, justement, on a un bel exemple. C'est Maïlys qui nous a envoyé donc cette petite vidéo. Alors, je sais pas, Guillaume, si tu peux la passer pour voir un petit peu ce qu'on peut donner comme exemple de vidéo et de contre-réponse de mauvaise ou de moins bonne par rapport à une attaque qui est faite par quelqu'un, là en particulier au niveau d'un élevage, quoi. Alors, est-ce qu'on a la vidéo? Guillaume, est-ce qu'il est présent derrière?
Monsieur, je représente la société ProAnima. J'aimerais vous poser quelques questions. Votre mère, elle ne vous a jamais appris à respecter la sensibilité des êtres vivants? Vous pensez que votre grand-père a élevé son troupeau comme ça? Vous n'avez pas honte de ne pas respecter la sensibilité de vos animaux? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Pour vous, ces bêtes, c'est que des gros steaks sur pattes, là. Hein. Vous les engraissez à coups d'antibiotiques et de protéines, et quand elles produisent plus assez, boum, vous les envoyez à l'abattoir. Hein. C'est inhumain, monsieur. Pourquoi vous ne les laissez pas terminer leur vie tranquille, hein, après tous les services qu'elles ont rendus? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Vos bêtes, vous les maltraitez purement et simplement.
Oh, mais de quoi vous vous mêlez? Vous êtes qui, vous? ProAnima? Vous êtes des contestataires de salon qui n'y connaissaient rien à la nature et aux animaux? Qu'est-ce que vous venez me raconter des choses que vous ne connaissez pas, là? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, madame. 30 ans, et c'est pas un métier de fainéant. Ça, je vous le dis. Alors, vous retournez avec vos chats et vos toutous, et vous me laissez travailler avec mes bêtes.
Vous laissez travailler, ouais.
Oui.
Les conditions d'abattage, on dit rien. On voit, mais on dit rien. J'ai vu, moi, ce qui se passe, monsieur. C'est une horreur, ce que vous faites à ces bêtes. Elles ont voyagé pendant je sais pas combien de temps avant d'arriver. Quand elles arrivent, elles sont hyper stressées. Et elles sont abattues, monsieur. Elles sont égorgées, une par une, à la chaîne, sans pitié, sans même anesthésie. Mais c'est du délire, c'est de la torture.
Mais en fait, ce que vous voulez, c'est la mort de notre métier. C'est ça, c'est la mort de l'élevage français. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus d'élevage? Vos associations, elles sont financées en sous-main par des multinationales qui veulent nous faire manger de la viande synthétique. Eh oui, madame, fabriquée en laboratoire. C'est là où on va, et c'est la mort des paysans français. Alors maintenant, vous sortez de chez moi.
Votre mère, elle vous a jamais appris à respecter la sensibilité des êtres vivants? Vous pensez que votre grand-père élevait son troupeau comme vous élevez le vôtre? Est-ce que vous n'avez pas honte de ne pas respecter la sensibilité de vos bêtes? Parce que vos bêtes, là, on est d'accord que pour vous, c'est des kilos de viande sur pattes, hein? Vous voulez gaver d'antibiotiques et de protéines pour qu'elles grossissent plus vite, et puis quand elles produisent plus, c'est direct sur l'abattoir, quick! Je vais vous dire, monsieur, c'est inhumain ce que vous faites. C'est inhumain. Pourquoi vous ne les laissez pas terminer leur vie tranquille, hein? Ces pauvres bêtes, après tout ce qu'elles ont fait pour vous, après tous les services rendus. C'est de la maltraitance, monsieur. Pur et dur ce que vous faites.
Je suis désolé que ça vous émeuve comme ça, mais laissez-moi juste le temps de vous expliquer 2-3 choses sur mon métier. Je ne sais pas ce que vous et vos camarades savez, mais moi d'abord, je n'ai pas 2000 brebis, mais 200. Et mon métier, c'est justement de m'assurer de leur bien-être, de gérer leur stress. Mon métier, c'est de savoir qu'elles puissent vivre en harmonie dans le troupeau. Oui, je les connais. Je connais leur caractère, je les connais, ils me connaissent. Et mon métier, c'est faire attention à leur état de santé, voir si elles n'ont pas des attitudes bizarres. Je vois comment elles mangent. Eh oui, madame. Je fais en sorte que les dominantes laissent les plus timides manger et se reposer. Et tout ça, oui, pour proposer à mes clients un meilleur produit.
D'accord, très bien. Ok, je veux... Vraiment, mais beau laus, monsieur. Hein. Les conditions d'abattage, on en parle, hein? Ces pauvres bêtes là qui arrivent hyper stressées. J'ai vu les images, monsieur, c'est horrible ce que vous faites. Elles ont voyagé dans des camions pendant je ne sais pas combien de temps, elles arrivent et elles sont massacrées. Oui, elles sont massacrées à la chaîne. Sans anesthésie, sans pitié, elles sont égorgées vivantes. Mais vous êtes fous ou quoi? C'est de la torture. Vous devriez avoir honte, monsieur. Soyez honnête, ces bêtes pour vous, c'est que du fric et de la viande, c'est tout.
Là, je suis désolé, mais vous vous trompez encore. Je ne pense pas qu'à me faire du fric sur le dos de mes bêtes. J'ai investi dans des étables modernes, qui sont des litières qui sont propres, bien ventilées. Elles vont manger dehors au maximum, et de manière générale, elles ont des bons fourrages maison. Mais c'est vrai, c'est un métier solitaire, qui prend beaucoup de temps. Vous savez, je passe facilement 60 heures par semaine avec mes bêtes. C'est moi qui les ai fait atterrir sur cette terre. Et je les accompagne jusqu'au bout quand elles vont à l'abattoir. Et c'est un moment qui n'est pas facile pour moi.
Voilà, voilà, petit moment d'émotion. Moi, ça me prend un petit peu au trip quand même quand je regarde ça. Je sais pas pour vous, mais je sais pas si ceux qui l'avaient pas encore vu. Voilà, c'est vrai que on reconnaît dans la première partie la réaction. Hein, c'est vraiment j'y vais parce que ben je fais mon boulot aussi avec mes tripes, mais je réagis en contre-réaction. Alors qu'à la suite, on se met sur le côté empathique. Alors j'avoue moi-même que même si ça fait très longtemps que je communique, il y a des fois où je me prends le chou avec des personnes et je monte dans les tours aussi. Et c'est pas évident d'arriver à accepter de le faire tranquillement et puis d'arriver à expliquer aussi ses émotions à soi. Je pense que c'est là où on a peut-être le plus de valeur. Alors Vaïs va peut-être nous dire un petit peu comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est là en disant, mais attendez, moi, ce que vous me dites, c'est des grandes images, mais moi, j'ai peut-être pas autant de bêtes que ça. On n'est pas dans les feedlots américains non plus. On essaye de mettre nos bêtes dehors, essayer simplement d'expliquer la réalité au quotidien de l'éleveur et du temps qui passe à côté de ces animaux. Et c'est ça qui est important aussi à expliquer, alors, dans ces cas-là.
Oui, tout à fait. Vous avez vu, c'est beaucoup une question de posture au départ. La première vidéo, la posture de l'agriculteur, il est en réaction. Et il prend tout dans la figure et du coup, il surréagit, ce qui est tout à fait normal et on ne peut pas le blâmer parce que c'est sa réaction primaire. Et la deuxième réaction qu'il a, il prend du recul et il a un recul par rapport à ce qu'il veut dire. Il a un discours qui est un petit peu plus construit. Il parle de lui-même, il parle également de ses émotions et c'est d'abord la posture qui importe. Il faut savoir que par rapport aux objections qu'on peut dire, on n'est pas obligé de répondre à tout. Quelqu'un qui arrive avec un discours où il veut de toutes les façons, il ne sera pas constructif, il a envie de taper pour taper, c'est, je sais pas, l'organisation, on sait qu'il ne va pas venir pour dialoguer. L'agriculteur, il ne faut pas dialoguer. N'importe qui, l'agriculteur ou le salarié qui travaille dans le monde agricole. Quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas dans une posture de dialogue, vous n'êtes pas obligé de répondre, de dire « Écoutez, madame, très bien, ben, voilà, au revoir, sans être violent, etc. Au revoir, madame. » Vous reviendrez quand vous serez dans une posture de dialogue un peu plus intéressante.
Donc, c'est exactement la réaction que j'ai lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui met un commentaire que je sens vraiment auquel je peux pas répondre parce que on sent que c'est orienté, que c'est fixé et quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à avoir un dialogue, à discuter correctement avec cette personne. C'est couru d'avance. Donc j'allais dire s'épuiser avec ce type de personne, ça serait pas utile.
C'est pas utile. Quand la personne, elle n'est pas sincère et son discours n'est pas fondé, il ne faut pas y aller. Parfois, la personne, elle est sincère, mais ce qu'elle dit, ce n'est pas fondé. Parce qu'elle peut avoir une mauvaise approche, parfois un problème de voisinage ou autre. Et du coup, elle a une approche qui est sincère, mais qui n'est pas fondée. Dans ces cas-là, on peut vraiment rentrer dans une posture de dialogue. Il ne faut pas hésiter à y aller en expliquant, en essayant de comprendre. Et là, on est dans une posture d'écoute. De dialogue. C'est pour ça qu'on parle de communication positive. Alors, ça peut énerver un petit peu, mais finalement, ça s'apprend. Et c'est pour ça que, parce que c'est pas toujours naturel et c'est pas toujours inné, et ça s'apprend de pouvoir dialoguer, écouter, etc. Et surtout, il faut se dire que le consommateur, quand il est sincère, et bien souvent, ses craintes sont justifiées. Il faut pas voir ses craintes, ses peurs, comme quelque chose de pas justifié, qui est une attaque personnelle qu'on peut avoir. C'est justifié parce qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte qui est quand même compliqué par rapport à l'alimentation, la santé, le climat, et on ne peut pas du coup blâmer, jamais on ne pourra blâmer un consommateur dans ses peurs, ses craintes. Et du coup, c'est vers ça qu'il faut aller, être dans la posture de dialogue et pouvoir du coup, avec chacun ce qu'il est, son expérience, son vécu, en sachant qu'on peut ne pas répondre à tout, parce qu'on n'a pas la réponse à tout, et ça on peut le dire, je ne sais pas, moi aussi j'ai des difficultés, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je fais ça ou que je fais ça et que j'aime les animaux, etc., etc.
Ça, c'est un point, si je peux me permettre, c'est un point vraiment très important de parler de son vécu. En fait, notre expérience, chacun la nôtre, chacun dans notre couloir de nage, c'est notre force. C'est-à-dire que si on raconte ce que l'on fait, ce que l'on vit, comment on le vit, avec des mots qui sont simples, comme si on parlait à ses parents ou à ses, des personnes qui n'y connaissent rien. Vraiment parler de choses simples, parler de son vécu, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est un conseil qu'on donne aussi dans nos entreprises. Et il y a un point qui n'a pas encore été abordé, mais c'est accepter de ne pas tout savoir. Et souvent, quand on est attaqué, on a envie de répondre à chacune des attaques ou des questions qui nous est posée.
Alors là, dans l'exemple, par exemple, on voit qu'à la limite, il ne répond pas à l'attaque de l'abattage. Quelque part, il dit « moi aussi, ça me touche et ça me dérange ». Mais quelque part, alors moi, j'aurais eu une contre-réaction en disant peut-être « bah oui, mais ça me concerne pas ». Bah si je suis éleveur, ça me concerne les conditions d'abattage quand même, vu que c'est mes animaux qui vont. Mais j'en suis pas responsable. Mais aller dire ça, ce serait pas forcément utile. Dans ce cas-là, vaut mieux dire moi aussi j'en suis sensible, mais peut-être pas en rajouter. Alors si la personne rattaque derrière, ça va être compliqué, mais c'est vrai que là-dessus, accepter de ne pas tout savoir, c'est comme tu dis Sébastien, ça paraît important, quoi.
Et du coup, ça permet aussi, quand on ne sait pas tout, d'aller chercher et de se renseigner. Pour justement, nous aussi, accepter qu'on a aussi nos points d'ombre qu'il faut éclairer et aller chercher à progresser. Et c'est comme ça que l'ensemble du secteur, finalement, progresse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans nos entreprises où on est à la fois producteur de phyto et semencier et du digital et du biocontrôle, et bah, finalement, il y a une telle diversité de sujets que... un collaborateur qui est sur un sujet, il va pas très bien savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, on peut pas l'en blâmer. En revanche, il peut aller chercher l'information. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas assez, je trouve, en règle générale. C'est de se dire, là, on m'a posé une question, où est-ce que je peux trouver l'information pour aller répondre? Notamment dans notre vie privée, où on se dit, un déjeuner de famille, et on laisse l'autre dans le flou. On lui dit, je sais pas. Et puis, plouf. Alors qu'on pourrait l'accompagner et on pourrait au moins lui trouver une réponse ou un interlocuteur qui saurait répondre à sa question.
Ce qu'il faut, c'est toujours être honnête. Je pense honnête avec, et transparent sur sa réponse. Il faut mieux dire « je ne sais pas » ou bien « peut-être qu'effectivement, là, il y a un point, il faut que je creuse, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Moi aussi, finalement, ça me pose un problème intime. Il faudrait que je creuse. » Plutôt que de mentir aussi ou de mettre quelque chose de flou autour de la question.
Savoir ne pas forcément avoir tout dire. Oui, Luc.
Oui, non, mais on a quand même des points de force importants en agriculture. Nous les agriculteurs, on a cette chance, je dirais, c'est qu'on a un lien avec le consommateur trois fois par jour, à peu près, que le matin, midi et soir, les gens mangent et ils ne font pas toujours le lien avec l'agriculture, mais parfois, il faut le rappeler. Et je crois qu'on a aussi cette chance assez forte, c'est qu'on a tous quand même une histoire à raconter. Et très vite, on peut aller, enfin, on le voit d'ailleurs dans leur partage. Très vite, on peut aller quand même sur la fibre un peu sentimentale pour dire, effectivement, l'agriculture, on est rattaché au territoire, au paysage, on vit en milieu rural, on a vécu ici, on vit avec les champs, les animaux, enfin voilà, on peut dire beaucoup de choses. Et de refaire le lien entre le consommateur, le citoyen et nous, je crois que c'est important. Et en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous disent ou des collègues qui disent, mais moi, j'ai rien à dire. Si je suis éleveur, je peux parler des animaux. Si je suis céréalier, qu'est-ce que je vais dire? Et si même céréalier, moi je suis céréalier, dans ma coopérative, on a un moulin. Et finalement, il y a quelques années, on s'est dit, mais ce moulin, il faut le faire connaître peut-être aux gens. Ils ne le connaissent pas, les gens, les voisins et les riverains. Et donc, on a fait des journées portes ouvertes. Et là, on s'est aperçu que finalement, les gens, ils avaient un plaisir à venir et ils découvraient que le champ qui était en face de chez eux, c'était un champ de blé qui passait dans le moulin pour faire de la farine et que le pain qu'ils mangeaient, finalement, a été fait comme ça. Alors que l'image qu'il avait, de toute façon, du blé, c'est pour être exporté. Vous faites du blé, peu importe la qualité. Pour vous, ça part à l'exportation, au bout du monde, donc vous n'avez aucun souci de ce que vous faites. Mais on a dit, non, nous, on a un souci, puisque le pain que vous mangez, c'est nous qui le produisons. Et on est juste à côté de chez vous, et on vous croise tous les jours. Donc, on fait quand même attention à ce qu'on fait. Et finalement, il y a... tous les producteurs ont quelque chose comme ça à dire, je crois. Mais ça, il faut que les agriculteurs se le réapproprient. C'est ce que disait Maïs. C'est le travail qu'on fait dans les chambres d'agriculture. Il faut amener en confiance l'agriculteur et qu'il ne soit pas dans la position défensive, comme on l'a vu dans le partage, qui est très souvent, je le vois hélas, moi je le dis à des collègues, mais je dis attention, on vous pose une question, vous n'êtes pas obligé tout de suite de monter dans les tours et de réagir comme ça. C'est juste une question, les gens en face, le citoyen, il veut savoir comment ça se passe. Et autre force qu'on a aussi, c'est de pouvoir amener les personnes dans nos fermes. Et ça, c'est aussi une force importante. Parce que beaucoup de collègues ont peur de faire venir les gens chez eux, alors que plutôt, ils cherchent à savoir. Parce que c'est vrai qu'on a une activité qui se voit, hein, quand on est dans les champs avec notre matériel, les pulvérisateurs, les animaux. Tout ça, ça se voit, on ne peut pas se renfermer. Donc, on est au grand jour. Les questions posées, on peut les écrire quand on fait des journées portes ouvertes. Et ça, je crois, moi, je dis, et c'est ce qu'on essaie de faire dans les champs, hein, en accompagnement à la fois les agriculteurs ou les techniciens ou les conseillers des chambres. Il faudrait, si on pouvait faire dans chaque village tous les ans une ferme ouverte par village, c'est pas grand chose, je crois. Il y a plusieurs agriculteurs dans une ferme. L'organisation, ça peut être très simple. Hein. En fin d'après-midi, nous, les chambres d'agriculture, on peut accompagner par quelques outils. On invite les gens, on discute, on boit un coup à la fin. Et là, je pense que ça se passerait. Ça se passerait très bien et beaucoup de riverains viendraient tout simplement pour essayer de discuter parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on le mette en musique.
Après, c'est vrai qu'il n'est pas facile. Alors souvent quand on est... moi j'ai un exemple que j'explique dans mon livre où j'ai eu l'occasion d'avoir trois personnes et trois personnalités différentes sur un même sujet. J'étais en train d'irriguer une parcelle voilà, en bout de cité et le vent a soufflé et ça a envoyé de la bruine, j'allais dire, sur les maisons voisines. Alors c'était que de la bruine, hein, c'était pas le jet d'eau. Bon, j'ai quand même réussi à envoyer le jet d'eau au-dessus d'une maison et j'ai déglingué tout un salon de jardin. Donc là, la personne est venue, m'a attaqué de front. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Ça arrive, hein, je pense, de faire des erreurs, il faut savoir les reconnaître. J'ai réglé l'appareil. J'ai dit, vraiment, je suis désolé, s'il y a des dégâts, bah, vous me le dites, on verra. Voilà. La personne m'a dit, ah bah, écoutez, vous avez reconnu ce qui s'était passé, moi je vous en veux plus, je m'en vais, point barre. Elle est partie, elle m'a pas posé de problème du tout. Donc là, j'ai été assez étonné. J'en ai un autre qui est arrivé, mais alors Furax, un jeune, Furax, parce qu'il y avait de la bruine qui arrivait sur sa maison. J'ai dit, mais monsieur, quand il pleut, qu'est-ce qui vous arrive chez vous, c'est gênant. Parce que j'étais allé, je précise quand même que j'étais allé à 17h le mettre en route, et puis je l'avais arrêté tout de suite parce que j'avais vu qu'il y avait du vent, j'y étais retourné à 21h. Bon, après je me suis dit, je vais pas non plus aller le mettre à 3h du mat. Lui, il était complètement fou, j'ai pas réussi à discuter avec, bref, la discussion s'est coupée. Et après, j'ai eu une autre personne avec qui j'ai pu dialoguer, ça a été un peu compliqué parce qu'il me dit, ouais, vous rendez compte, votre eau elle est rouge. Bah, je dis non, monsieur, c'est le coucher du soleil, donc a priori c'est normal qu'il y ait un petit peu de. Mais vous savez, le champ, enfin le forage dans lequel je vais chercher l'eau, c'est là-bas, c'est à côté en plus d'un chenil, et les chiens boivent de cette eau aussi. Et voilà, il y a pas de quoi que ce soit, mais. C'est vrai que l'imagination des gens est parfois vorace, enfin plutôt véloce, et voilà, et donc ça a été un peu compliqué, mais les personnes ont eu trois réactions complètement différentes avec une même problématique, j'allais dire, et ça c'est pas toujours évident d'arriver à le mettre à réagir en fonction de ça, et c'est un peu compliqué. Alors avant de reprendre la suite et donc les réponses éventuellement à quelques questions qu'on a pu avoir et continuer un petit peu la discussion, il nous restera encore une petite dizaine de minutes. Je vais tout simplement passer le petit moment des partenaires. Donc on a Ternet, voilà, qui nous accompagne dans la communication sur ce sujet. Alors je sais pas s'il y a eu des questions ou des commentaires justement sur cet article qui a été sorti. Alors Guillaume est en train de rédiger, voilà. Alors il y a eu quelques commentaires. Pour être crédible, faut-il envoyer la sauce comme s'il se pratique, ce serait bien. Alors j'ai du mal à lire parce que c'est trop petit, donc désolé, mais sinon allez faire un tour sur le voilà, tout simplement Internet, vous pourrez voir l'article et vous pouvez aussi y mettre un commentaire si vous voulez. Ah, ça agrandit un petit peu. Alors, pour être crédible, faut envoyer la sauce comme si, comme ce qui se pratique, ça, et ça serait bien de nous dire, nous sommes en 2021, on vient d'avoir la plus grande concentration de pesticides dans l'air, voilà, tout comme les deux dernières années, avoir un désherbant très volatile dans les mains, être fier de le diffuser. Bon, un commentaire qui a priori était à peu près contre les pratiques. Commencez à ne plus utiliser les prosulfocarbes, car vos blablas risquent de ne pas être compris. Est-ce qu'on a compris? Alors voilà, il y a des commentaires forcément de retour. Alors c'est vrai que ces produits volatiles sont des problématiques aussi des agriculteurs. Et justement, on va en parler peut-être un petit peu après avec la communication. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un sujet. Attends, et toi, Abeille, tu fais quoi comme métier? Pas certain que tu travailles non plus. Une chose est sûre, si on compte sur toi pour se nourrir, on est mal barré. Tu fais partie des cafaucons inutiles. Voilà, alors ça, c'était pour le commentaire d'avant, j'imagine. Voilà. Mais voilà, ces histoires de problématiques d'usage de produits, quelque part, on sait que, par exemple, que Viser Zéro Impact cherche aussi à minimiser. Alors ça, c'est les communications qui sont faites, entre autres, par Syngenta. Hein. Voilà, et on en a un petit exemple qui va passer. Ah, d'ailleurs, on a perdu Sébastien entre deux. Voilà, il s'est reconnecté. Vas-y, Guillaume, si tu peux nous mettre le petit... Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui n'ont pas vu voilà ce que c'est tout simplement la communication de Viser Zéro Impact, donc de Syngenta. C'est important pour une société comme vous d'essayer justement de pousser aussi à l'éducation, que ce soit des agriculteurs, mais aussi pour enfin et des utilisateurs de produits pour que justement soient mieux respectées les conditions d'usage, parce qu'on sait que tout produit avec une certaine dose peut être, j'allais dire, dangereux. Forcément, il y a du danger, il y a du risque. Si on veut minimiser le risque, il faut absolument essayer de, j'allais dire, de prendre des protections. Alors peut-être que le sens des protections s'est développé aussi avec la Covid. Maintenant, on sait qu'il faut porter un masque pour se protéger, par exemple. Ça peut aider peut-être.
Non, mais ce qui est sûr, Thierry, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que notre responsabilité s'arrête pas à la sortie de nos usines de produits et que on doit prendre en compte ce qu'on appelle les bonnes pratiques et la bonne utilisation. Et c'est vrai pour nos produits, pour les produits phytosanitaires, c'est vrai pour finalement tous les produits de la vie quotidienne. Je pense que ce soit du savon ou du fioul, ça viendrait à personne de l'utiliser autrement que pour du savon ou du fioul, et c'est pareil pour les produits phyto. Ça, c'est pas une démarche spécifique. Enfin, la démarche visée zéro impact, effectivement, c'est Syngenta, mais l'ensemble des acteurs de l'industrie est engagée dans les mêmes démarches. Et une des bonnes nouvelles, entre guillemets, qu'on est en train de mettre en place, c'est Easy Connect, qui a justement pour objectif de qu'il n'y ait plus aucun contact entre l'agriculteur et de risque de contact en tout cas entre l'agriculteur et le produit phyto, avec un système de bidon et de goulot très sécurisé. Donc ça, c'est vraiment une démarche de progrès. C'est une conscience du risque qui a évolué aussi sur les 50 dernières années. Donc c'est toute cette démarche-là de protection de l'agriculture et de la bonne utilisation. Ça, c'est la santé de l'agriculture et de l'agriculteur, pardon. Et ça, c'est vraiment le premier point, c'est que la première personne exposée aux produits phytosanitaires, c'est l'agriculteur. Ça, faut vraiment qu'on l'oublie. Je pense que Virginie le sait aussi, et toute la démarche de progrès autour des bonnes pratiques, des types de bidons, des pulvérisateurs, des buses anti-dérives, vise à protéger l'utilisateur et à avoir une meilleure et une plus grande efficacité, mais vraiment une meilleure précision dans la protection des cultures.
Je pense que c'est un élément important. Alors, on va reprendre quelques commentaires après, mais je voulais tout simplement ajouter que dans l'image, moi j'avais noté aussi ce que j'avais mis dans le livre, parce que j'avais vu au niveau de l'agroécologie ou tout simplement de l'agriculture de conservation des sols, de plus en plus on utilisait maintenant le pulvé, non pas uniquement pour mettre un produit phytosanitaire, mais aussi mettre des produits de biocontrôle, entre autres, ou des purins d'ortie, ou des choses comme ça. Alors pour certains, ça peut paraître ésotérique, mais pour d'autres, c'est une vérité, a priori. Il n'y a pas que des, j'allais dire, des saugrenus qui font ce genre de démarche. Donc, c'est que je suppose qu'il y a un réel intérêt. Maintenant, il faut le comprendre et l'appliquer. C'est beaucoup plus délicat de faire du préventif que du curatif. Ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai que demain, même si on devait arrêter l'usage de produits phyto en tant que tels chimiques ou d'origine non naturelle, c'est pas pour ça qu'on va se priver demain du pulvérisateur. Et certainement aussi de sociétés qui vont continuer à nous mettre à disposition des produits qui seront certainement, de toute façon, ils sont de plus en plus contrôlés, ils sont de plus en plus soft, on va dire, entre guillemets. Moi, par rapport à quand j'ai démarré, le nombre de produits qui ont disparu de la liste, tous les ans, au niveau technique, on dit pas, tiens, vous avez une nouveauté, tiens, non, on vous a enlevé ça, ça, ça. Donc, vous vous débrouillez avec de plus en plus ou de moins en moins de produits. Donc, c'est une des problématiques. Mais c'est vrai que, quoi qu'il arrive, demain, on est encore loin de... Je veux dire, on va pas utiliser, même en bio, on va pas arrêter d'utiliser des produits et des pulvées, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, on va continuer à protéger les plantes. On va sûrement les protéger différemment.
Différemment.
Mais on importe des nouveaux ravageurs chaque année. Alors pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES. Il y en a, je sais plus, 4, 5, 6 qui arrivent chaque année en France. Selon la climatologie, il y a un peu plus, un peu moins de mildiou. Donc tous ces sujets-là, il faut bien les adresser. Après, la question, c'est comment on les adresse. Et effectivement, on peut avoir une démarche avec de l'innovation en semences, avec des pulvées, des drones, de l'agriculture de précision, le digital qui aide effectivement à vraiment viser là où il faut en mettre et pas forcément partout comme ça a pu être le cas. Mais finalement, c'est cette combinaison des technologies entre le bio, le conventionnel, le biocontrôle, les biostimulants aussi. Et je pense qu'en mécanique, Virginie a toute une palette de solutions hyper vaste, mais c'est ça qui va permettre effectivement d'être beaucoup plus précis et de viser zéro impact sur la nature et sur l'environnement.
Alors Virginie, toi aussi, tu penses que demain, on va encore utiliser des appareils pour protéger nos plantes? Est-ce que Philippe nous met en commentaire, les plantes continueront à avoir des maladies, ça c'est une certitude.
C'est une certitude, effectivement. Après, le pulvérisateur, je vois, il y a des solutions de plus en plus comment dire, adaptées et intelligentes. Là, je vois par exemple Bertou, ils ont sorti leur solution Sniper. Il y a Agrifac aussi qui sort. En fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une pulvérisation ultra localisée. En fait, il y a des caméras sur la rampe et les caméras, en fait, elles visent que l'Adventice, quoi. Donc, le produit est pulvérisé que sur la mauvaise herbe. Et ça, moi, qui n'étais pas du tout issu du milieu agricole, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « wow, quoi ». Enfin, effectivement, moi, j'ai l'impression, et ça, je le dis même à mes proches quand on discute quand même un petit peu, je leur dis, on critique les agriculteurs, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est le métier où vous êtes le plus contrôlé, quoi. Donc, c'est vous qu'on vient embêter alors que… Enfin, il y a plein d'autres métiers qui polluent. Vous, vous faites attention, vous êtes pour l'environnement, pour les animaux, et c'est sur vous qu'on vient taper. Enfin, je trouve, il y a d'autres secteurs d'activité à aller embêter, quoi. Mais effectivement, oui, il y a énormément de solutions. Nous, que ce soit Technoma, Bertou ou autre, là, la dernière en date du groupe Excel, c'est le Sniper, et ça fait un carton, quoi. Donc, il y a énormément de solutions.
Faire un carton avec un Sniper en même temps, c'est pas anormal, hein, si on veut prendre le jeu de mots, forcément.
J'osais pas le faire, mais bon, je savais
qu'il fallait le faire. À cette heure-ci, on peut se permettre, hein, voilà, c'est pas méchant non plus. Alors, c'est vrai qu'il y avait un commentaire tout à l'heure qui disait que toute activité humaine, toute activité, j'allais dire, industrielle ou de production, a aussi ses nuisances. Alors, le problème, c'est que le consommateur, lui, a pas la notion d'intérêt. Bah ouais, mais si certains arrivent à produire en bio, pourquoi on pourrait pas tous faire pareil, quoi? Et c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Voilà, justement, c'est Nicolas qui avait mis ce commentaire-là. Toute activité est polluante, quoi, qu'il en soit. Je crois que, Luc, je t'ai coupé, non?
Oui, non, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on rappelle aussi que si on le fait, c'est aussi dans l'intérêt quand même du consommateur, parce que d'une part, il faut qu'on lui assure quand même de pouvoir manger tous les jours, ou de produire suffisamment ce qu'il faut pour qu'en plus on produise chez nous et qu'on importe peut-être de moins en moins, mais surtout que les produits qu'on veut proposer nous aux consommateurs, on a quand même aussi envie que ce soit des produits sains et qu'il n'y ait pas de maladies. Donc, il faut rappeler aussi souvent qu'entre les deux guerres, il y avait encore, je crois que c'est 10 à 15 000 morts par an du fait de l'ergot du blé, qui est une maladie qui a disparu aujourd'hui parce que justement il y a eu des moyens de lutte, mais qui reviennent par endroit, parce que par endroit on lève un peu le pied sur le suivi de la santé des plantes, et donc il y a ces maladies qui reviennent. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on dit que l'agriculture française a été classée depuis 3 ans ou 4 ans l'agriculture la plus durable au monde, c'est aussi l'agriculture la plus sûre, et qu'aujourd'hui on n'accepterait pas qu'il y ait quelqu'un un décès parce qu'il y a une intoxication alimentaire du fait de la production. Et très bonne chose, ça n'arrive pratiquement plus, mais en tout cas quand ça arrive c'est très très exceptionnel, alors qu'il faut rappeler qu'avant justement l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui et toutes les avancées qu'il y a eu, il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de malades, de décès, parce qu'il y avait des intoxications à la production. Et ça, de grâce, on l'a supprimé pratiquement.
Bah c'est vrai que le côté sanitaire, hein, que ce soit à la production, à la transformation maintenant et même à la distribution, on voit qu'il y a des contrôles un peu partout. Hein. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont contrôlés aussi. Hein. Il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup de professions. Alors, dans les métiers, j'allais dire, comme nous, de l'agriculture, on est plus sensible peut-être à ça parce que l'industrie, ça fait très longtemps qu'ils sont contrôlés, que nous, on l'est peut-être un peu moins ou depuis un peu moins longtemps. Mais c'est vrai qu'on remarque de plus en plus une grosse évolution dans ces choses-là, quoi. Alors, je reprends un petit peu les commentaires. Alors, il y a Philippe, qui parlait aussi, on pourrait parler de mycotoxines. Bah, forcément, c'est des choses qui peuvent arriver. On parlait de l'ergot, oui. Moi, c'est une maladie. Alors, je sais qu'on la connaissait pas. Alors, pour être producteur bio, j'ai un collègue qui a eu trop de problèmes d'ergot. Il a pas ressemé parce qu'il devait ressemer ses graines et donc ça n'a pas été possible. Et c'est vrai que bon, on sait aussi que même en bio, on a des contrôles qui sont tellement précis que le risque est quand même un peu moindre. Et après on est est quand même un peu moindre. Et c'est tellement contrôlé que j'allais dire tous les lots sont vérifiés. Il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de souci que ce soit dans un type de production ou un autre. C'est vraiment hyper contrôlé, quoi. Je regardais un petit peu s'il y avait encore. Oui, alors il y a Sébastien qui disait « Je pense que le monde agricole se protège plus que les particuliers qui utilisent un insecticide pour son animal domestique. » Bon, on va pas revenir sur les néonicotinoïdes parce que quand ils étaient autorisés pour les chiens et les chats, alors qu'ils l'étaient plus pour les betteraves, franchement, c'était un petit peu un bug. On a eu un peu de mal à comprendre le sens des choses. Quand le glyphosate n'était pas utilisable, mais quand on voit que moi, le maire de la commune de Liévin avait réussi à faire un arrêté anti-glyphosate pour les exploitations agricoles, mais ils avaient encore le droit de l'utiliser, eux, dans les cimetières. C'est vrai qu'un cimetière, c'est quand même beaucoup moins fréquenté qu'un champ. Hein. Les gens n'y passent jamais, donc a priori, il n'y a pas de problématique. Mais il avait fait un choix un petit peu bizarre. Voilà, donc voilà un petit peu dans les commentaires. Alors, il n'y a pas trop de questions, on arrive à 22h. Je vais vous laisser faire un petit mot de la fin chacun, et puis nous dire où est-ce qu'on peut retrouver, éventuellement vous retrouver, si jamais quelqu'un veut avoir des bâches, par exemple. J'ai vu Kélian qui a mis un petit message à Virginie, mais Kélian, t'inquiète pas, je te mettrai en contact, je te donnerai les coordonnées de Virginie, il n'y a pas de souci. Voilà, pour pouvoir les avoir. Mais dites où on peut avoir soit des bâches ou des renseignements au niveau, par exemple, des chambres d'agriculture. Qui est-ce qu'il faut contacter si jamais mais on veut peut-être s'éduquer un petit peu cet hiver pendant qu'on a un petit peu de temps à un dialogue positif. Et puis Sébastien, tu pourras nous rappeler aussi là où on peut vous retrouver et les actions que vous mettez en route. Allez, Virginie, on commence par toi vu qu'on avait commencé par toi, ouais. Aussi.
Donc moi, juste pour conclure, en fait, donc le fait de travailler, j'ai commencé chez Technoma. Le fait de travailler chez Technoma, en fait, ça m'a appris la patience, puisque effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut savoir dialoguer. Des personnes, quand elles sont directes dans l'attaque, de toute façon, on est obligé de ne pas s'énerver et prendre son mal en patience. Donc ça, c'est un gros point. Si vous avez des questions ou si vous voulez venir faire des visites d'usine, par exemple, c'est gratuit et c'est moi qui l'ai fait en plus. On comptait au moins une heure quand même.
Et on est très bien accueillis pour l'avoir fait. Vous pouvez la faire en virtuel aussi vu qu'il y a une vidéo qui a été sortie sur la chaîne.
Oui. Exact, c'est Thierry qui est venu qui l'a fait, super belle vidéo. Donc après, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur le Facebook, c'est moi qui vais vous répondre pour les bâches si vous en voulez. Et vous pouvez aussi aller sur le site donc www.vivelagriculture-technoma.com. Je l'ai mis à un moment dans les commentaires et comme ça, vous pourrez voir un peu le partenariat qu'on a avec Thierry. Enfin, on a fait des choses ensemble super sympas. On a fait des BD aussi avec Sophie qui a aussi travaillé pour Thierry. Donc, il y a plein de petites choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas, c'est moi que vous tomberez sur moi.
Ok. Allez, Maëlys, dis-nous un petit peu, alors, si on veut se former un petit peu ou avoir quelques informations,
oui,
comment on fait?
Alors, juste avant de parler de ça, je voulais dire que pour les agriculteurs et les salariés du monde agricole, je crois qu'on peut vraiment être fier de travailler pour l'agriculture, en fait. On peut être fier parce qu'on aide justement à nourrir cette population, à nourrir l'ensemble de la population. Et justement parce qu'on nourrit la population, il faut écouter l'attente des consommateurs, c'est ce que je disais. Il faut vraiment être dans cette posture de dialogue et renouer le dialogue parce que on fait partie du même vivant. En fait, l'agriculture, c'est le vivant et du coup, on aide au vivant. Et si on n'a pas cette posture de dialogue, et ben, du coup, c'est comme la vie, il y a des trucs qui n'iront pas. Il faut vraiment pas se dire que tout ce qui concerne les demandes des consommateurs, tout ça, c'est loin, c'est éloigné. Non, ça fait partie du même tout et je pense que c'est vraiment très important. Et vraiment, on peut être fier parce que aujourd'hui, ça donne du sens. Et justement, dans ces climats anxiogènes, tout ce qu'on peut avoir, on a besoin de concret, de personnes qui travaillent, qui ont des solutions, qui mettent en place des innovations. Et en fait, vous êtes les agriculteurs au cœur des sujets de société. Et vous êtes une réponse à tellement de choses qu'aujourd'hui, la société est en attente. Et finalement, il y a une voix que vous pouvez donner à travers les réponses que vous faites à votre niveau en expliquant ce que vous faites. Et vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Donc vraiment, je veux dire, pour la société tout entière, c'est vraiment une chance que vous puissiez communiquer et expliquer votre métier. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire parce que finalement, en tant que salarié du monde agricole, moi, j'ai découvert le monde agricole il y a 10 ans. Et ben aujourd'hui, je suis hyper fière, ce qui n'était pas le cas avant parce que je comprenais rien. J'ai mis tellement de temps à comprendre ce que faisaient les chambres d'agriculture et comment les agriculteurs travaillent, etc. Et par rapport à toutes ces questions qu'aujourd'hui, je comprends. Et je comprends que c'est au cœur de la société et je suis très fière de travailler pour le monde agricole, les chambres d'agriculture et le monde agricole. Et je pense que ça peut être le cas de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, on peut avoir du mal parfois à embaucher, etc. Et demain, on arrivera à embaucher des jeunes parce qu'ils sont en quête de sens. Ils sont en quête de ce sens-là. Et si on ne communique pas, ils ne vont rien comprendre. Ils vont perdre le sens principal de ce que vous faites parce que vous êtes dans la réalité, dans le concret, et pas dans des choses qui partent à très loin. Voilà. Et du coup, maintenant, je redescends un peu. Il y a des formations que les chambres d'agriculture proposent. Et du coup, vous pouvez aller contacter votre chambre d'agriculture. Vous avez de grandes chances qu'elle propose ces formations à la communication positive parce que c'est une action de l'ensemble du réseau des chambres. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et puis, pour les salariés des chambres, c'est pareil. Voilà.
On se renseigne donc auprès de sa chambre d'agriculture, régionale, j'allais dire, ou départementale.
Exactement.
Pour avoir ces infos-là. Bon, Luc, en tout cas, tout à l'heure, Sébastien disait qu'il fallait être convaincu pour pouvoir bien réaliser. Là, Maëlys, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas convaincue. Il n'y a pas de problème. Elle est même convaincante. Voilà, allez, Luc.
C'est pour ça qu'elle est en charge de la communication aussi à la SOPA.
Vous l'avez bien choisi, en tout cas.
Non, mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, il faut vraiment qu'on mette en avant les réponses qu'on peut apporter, comme le disait Maëlys, par rapport aux préoccupations et aux enjeux de société aujourd'hui. On a parlé de la partie alimentaire, mais la souveraineté alimentaire a repris quand même, est revenue un peu sur le devant de la scène depuis un an et demi. Mais aujourd'hui, les enjeux de changement climatique, la problématique du carbone, de biodiversité, de l'aménagement des paysages, des territoires, tout ça, je crois que c'est des attentes aujourd'hui de la société et on peut apporter une réponse. Donc moi, je dis très souvent aux collègues, on ne peut pas hésiter aujourd'hui d'aller peut-être porter ces messages dans des réunions publiques, de discuter avec des élus. Quand il y a des maires ou des nouveaux conseils municipaux, il faut qu'on aille les voir et dire ce qu'on peut faire. Donc je crois qu'il y a vraiment, avec les outils qu'on peut apporter, alors c'est un problème de temps, parce que les agriculteurs, il y en a de moins en moins, et le temps, il n'y a pas beaucoup de temps. On a aussi des nouvelles techniques, des nouveaux outils. C'est un problème de formation, de mise en confiance. Et je crois que c'est un peu ce qu'on fait. Alors on n'est pas les seuls, et il y a beaucoup d'acteurs qui le font, et c'est très bien. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs dans ce sens-là.
On a toujours le temps de ce que l'on veut, disait ma grand-mère. Donc maintenant, il faut savoir le prendre, c'est tout.
C'est beau.
Bon, allez Sébastien, dis-nous un petit mot aussi.
Je vais essayer d'être plus original peut-être et concis, vu que beaucoup de choses ont déjà été dites. Non, en introduction de ce live, tu me posais la question de savoir si j'osais dire... pour qui je travaillais et ce que je faisais. Et pour rebondir sur ce que disait Maëlys, en fait, c'est une fierté pour moi et pour nos collaborateurs de l'industrie phytopharmaceutique d'être au service, finalement, des agriculteurs, qui eux-mêmes sont au service des consommateurs. Donc le lien, qui paraissait très loin, il y a encore quelques années, se resserre. Et les solutions et ce qu'on essaye d'imaginer, de mettre en place, doit être utile aux agriculteurs et donc répondre aux besoins des consommateurs. Et ce temps ramassé est extrêmement challengeant et donne du sens à ce qu'on nos actions du quotidien. Donc je trouve que c'est une bonne chose d'en parler, c'est une bonne chose d'expliquer, c'est une bonne chose de dialoguer, et d'autant plus que individuellement on partage aussi tous les mêmes préoccupations de la société en général. On n'est pas que agriculteur, on n'est pas que producteur de phyto, on est aussi parents, amis, consommateurs.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Alors, si jamais on veut retrouver aussi, j'allais dire, des actions, on a tout simplement visé zéro impact. Hein. Je crois qu'Elian avait mis les coordonnées tout à l'heure. On a aussi Calicible, qui est une des actions, entre autres, de chez Syngenta, c'est ça?
Oui, alors effectivement, il y a différentes choses. Bon, il y a le site internet de nous et de tous les toute l'industrie. On a une vraie volonté de dialogue, donc... sur le bon principe de quand c'est flou, il y a un loup, n'hésitez pas à poser des questions, et que ce soit sur le compte Twitter de Syngenta, le mien, ou celui des collègues d'autres entreprises, ou de l'UIPP, il faut vraiment mieux poser la question plutôt que de rester avec une interrogation.
Si c'est flou, il y a un loup, d'accord, on va retenir la petite remarque. C'est intéressant, alors je vois dans les commentaires, osez parler de votre métier, jetez-vous à l'eau, rien ne vaut votre expérience. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique comme commentaire. Alors moi j'en ferai un aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'agriculture, qui connaissent pas tout, vous pouvez toujours acheter mon livre qui s'appelle « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent ». Voilà, j'en fais pas souvent de la pub, mais on m'a dit qu'il fallait que j'en parle, parce que voilà, il y a encore beaucoup de monde d'après un sondage qui pense l'acheter mais qui l'a pas encore acheté. Voilà, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Hein. Si jamais vous avez une société aussi, que vous voulez en distribuer, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on en a deux ici qui l'ont déjà fait, donc il n'y a pas de... Voilà, ça peut être une idée cadeau aussi pour des collaborateurs ou pourquoi pas pour des amis qui ne comprennent pas l'agriculture, hein, pour un voisin.
Et puis, si je peux t'appuyer, Thierry, juste, si vous ne l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Parce que moi, je pensais que j'aurais du mal, n'étant pas issu de l'agricole, bon, même si je travaille un peu dedans. En fait, il parle vraiment avec ses mots et c'est compréhensible pour tout le monde, quoi. C'est un super bon livre. Moi, j'ai appris plein de trucs grâce à toi, Thierry, donc encore merci. donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à l'acheter.
Voilà, bah c'est la meilleure pub que je peux faire, c'est pas la mienne, merci. Voilà, et donc on a aussi des commentaires qui ont été faits, alors j'ai Dominique et Philippe qui a complété aussi, hein. Progresser, pratiquer, s'entraîner avec ses proches, participer aux discussions, voilà, dès qu'on a l'occasion, ça peut être vraiment intéressant, et il y avait aussi une remarque sur les organisations, entre autres un petit coucou à France Agrituitos, Agriculteurs de Bretagne, AgriLoving, ça c'est Pascal Nord21 qui nous les met, Ici la Terre, Agri Demain, voilà, et donc il y en a une autre qui est au cœur de l'agri, les agriculteurs ont du cœur aussi, il y a beaucoup d'actions qui existent, peut-être proches de chez vous, peut-être au niveau national, mais n'hésitez pas à aller les rejoindre pour pouvoir aussi, pourquoi pas, participer à ce type d'action qui peut aider aussi l'image de l'agriculture à évoluer. Écoutez, merci beaucoup à tous nos intervenants et puis à tous nos auditeurs de nous avoir suivis, d'avoir mis pas mal de commentaires. Voilà, il y a Philippe qui a été très actif, mais j'en doute pas sur le chat. Et voilà, Kélian aussi qui m'a donné un bon coup de main sur la modération et qui a mis toutes les petites coordonnées que vous pourrez retrouver aussi, donc tout simplement pour ne rien louper de ce qu'on a dit. Alors merci à vous toutes et à vous tous. Alors on a passé encore 1h13, comme d'habitude on a dépassé les chronos, mais le sujet était intéressant. Voilà, et ben merci à vous, au revoir. On peut faire un petit coucou à tout le monde.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Merci
beaucoup. Et puis à la prochaine. Allez, nous on reste en ligne et puis nous on vous quitte. Dans 15 jours, on aura encore un rendez-vous à Gris, mais entre deux, je pense qu'il va y avoir quelque chose parce que tout simplement, je fête les 8 ans de la chaîne. Donc début novembre, je prévois quelques petits trucs. Voilà, parce que je vais passer un cap aussi au niveau de mon âge. Je vous dirai pas quel âge, mais voilà. Et je vais faire l'inverse, je vais pas vous demander les cadeaux, c'est moi qui vais vous en offrir. Donc voilà, on va essayer de faire ça avec des petites foires aux questions. Il va y avoir quelques petits trucs à partir de début novembre, on va essayer de faire une petite action là-dessus. Donc voilà, continuez à me suivre sur les réseaux et puis on pourra dialoguer ensemble et puis essayer de faire évoluer l'agriculture parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao !